Bon, vendredi, on vient de parler à Mathieu Loca d'économie. Tantôt, on va parler de notre ventre avec Stéphane Paquet. Je vais parler de sexe avec Sylvie Lavallée. Mais on va parler de Tipitou aujourd'hui. Et là, je vous en promets toute une chronique aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des liens assez particuliers entre nos amis, les chiens, et les humains. Vous allez voir, on va parler de cannabis, puis on va parler de mets à la table, entre autres. Et pour ce faire, je vais rejoindre la docteure Claudia Forgette, directrice médicale chez Anima Plus, deux cliniques ici en Outaouais. Bonjour, docteure Forgette.
Bonjour.
Ben, Colin, je pensais jamais d'avoir un sujet comme ça.
Hey.
C'est dans l'actualité, la légalisation du pot qui s'en vient pour le 1er juillet pourrait avoir des conséquences sur nos animaux.
Oui, effectivement. Il y a eu un lancement dans le journal La Presse. C'est l'Ordre des médecins vétérinaires qui en a parlé pour un peu conscientiser les gens un peu sur les risques d'intoxication chez les animaux. Et on en a en clinique, mais avec la légalisation, on veut vraiment que les gens prennent conscience de ce problème-là.
OK. On va commencer par c'est quoi les conséquences si j'imagine là que on parle d'un chien qui aurait, par exemple, mangé du pot, j'imagine?
Oui,
OK.
effectivement. Mais j'ai aussi déjà vu au niveau aussi quand un endroit est très, très intoxiqué au niveau de l'air.
Ah.
Ça peut faire quelque chose aussi.
Fumée,
Les doses.
la fumée secondaire pour les chiens.
Oui, ça peut aussi toucher l'animal.
OK, on y va.
Donc, à chaque année, ben, on reçoit comme vétérinaire là, des cas. C'est sûr que c'est pas toutes les semaines, mais on en a à chaque clinique quelques cas par année qui ont eu des contacts avec le cannabis, mais de façon, c'est ça. En fait, ils ont des signes cliniques. En bas de 3 mg par kilo, on ne voit pas de signes cliniques. Mais un animal qui prend plusieurs grammes peut, dépendamment de sa grosseur, avoir des gros symptômes. Des pupilles dilatées, des pupilles qui se promènent de gauche à droite rapide, 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 de la démarche anormale, l'animal est super réactif ou complètement somnolent et on a une baisse drastique soit de la pression sanguine ou de la température chez certains animaux. Ça peut aller grave, là. On peut même perdre son animal. Donc, ça peut aller rarement, là, mais ça peut aller jusqu'au décès. Fait qu'il faut pas minimiser. C'est sûr que ça nous fait rire un peu. Ah, mon animal va prendre un peu de drogue, on va voir ce que ça donne. Non, c'est pas drôle pour le chien.
Eh bien, il n'aime pas ça, là.
Non, non, parce qu'il sait pas pourquoi, il sait pas dans quelle situation il se trouve présentement. Donc, ça l'insécurise, puis il a de la difficulté avec sa coordination. Donc, il y a encore plus de danger avec un effet dans sa tête qui se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? D'aller se faire mal, de courir, de sauver, de tomber. Donc, c'est plus dangereux, là.
Fait que si jamais quelqu'un décidait de faire pousser du pot, là, on sait que le Québec ne le permettra pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Il y en a maintenant. Ça veut dire que faites attention si c'est accessible, là, les plantes portes pour les animaux.
Oui, j'ai déjà eu un cas comme ça d'un chien qui a mangé vraiment au niveau de la plante directement.
Imaginez. Hey, Colin. OK. L'autre sujet, c'est
Oui.
en lien avec des chiens qui auraient été secourus. Si j'ai bien compris, sauvé de l'abattoir en Corée du Sud par la Humane Society. Première question, on va commencer en Asie, je crois. Ben oui, pas je crois, c'est en Asie. Donc, on va parler de la Humane Society. C'est un peu l'équivalent de la SPCA?
Bien, c'est un organisme qui travaille en collaboration avec aussi les SPCA.
Okay.
C'est un organisme qui œuvre auprès des animaux, mais à travers plusieurs pays. C'est vraiment international. Ils sont actifs dans les refuges, mais ils organisent des journées de stérilisation aussi, mettons, dans les régions éloignées. J'ai eu une vétérinaire consoeur qui est allée travailler en Haïti pour montrer aux vétérinaires d'Haïti comment stériliser les chiens, parce que, entre autres, dans cette région-là, il y avait la rage. Et les chiens du village peuvent un peu stimuler l'entrée de chiens enragés des campagnes qui vont s'approcher des villages pour aller voir les femelles du village. Donc, il y a eu beaucoup de stérilisation des chiennes du village pour éviter que ces chiens-là, potentiellement enragés de la campagne, arrivent en ville.
Je comprends.
Donc, ils sont aussi actifs dans ces genres de stérilisation-là, dans le Grand Nord aussi au Québec. Ils font des actions concrètes comme le sauvetage des chiens en Asie, là. Donc, ils sont vraiment en collaboration, puis ils font des saisies d'animaux aussi. Ils sont là-dedans. Ils sont un peu partout.
Bon. Et dans le cas présent, là, la Corée du Sud, ces chiens ont été sauvés de quoi?
En fait, ils ont été sauvés de l'abattoir. Donc, l'abattoir, il existe des abattoirs pour chiens dans certains pays. On parle de 11 pays hein, qui mangent de la viande encore de chiens. Donc, on parle surtout de la Chine, l'Indonésie, la Corée. Il paraît qu'il y en, il y en aurait au Mexique, selon les sources, mais en tout cas, il me semble que je voyais plus ça en Asie, moi aussi, là. C'est un petit peu malheureux. C'est pas la même façon de penser que nous, mais on sait qu'il y a énormément de chiens. Seulement en Chine, on estime à autour de 300 000 chiens qui seraient consommés par année.
300 000 chiens?
Juste en Chine. Si on parle au travers du monde, on parlait plusieurs millions.
Tabarouette. Ouais. Évidemment, ici, c'est illégal, ça?
Oui, effectivement, on ne le fait pas. On ne le fait pas et je ne crois pas que ce soit autorisé non plus.
Non.
Mais c'est même pas dans nos mœurs ou dans nos façons de travailler avec ça. Non, on n'a pas la même mentalité que ces gens-là. Puis ça vient de loin, là. Dans le fond, avant, c'était une pratique acceptable. Et puis, les principales causes, là, pourquoi on amène ce phénomène-là, c'était la famine, les grandes guerres qui poussaient les populations à manger et à tourner vers la viande de qualité autour d'eux. Donc, la viande de chien, la viande de chat, ça en fait partie. Aujourd'hui, le chien, c'est sûr qu'on nous dit que de plus en plus, les gens commencent à se conscientiser au niveau des Chinois aussi. Et ils subsisteraient aujourd'hui que dans les campagnes, ces genres de façons de faire, là.
Hmm. Tu sais, la réaction est vive là, quand on dit manger
oui.
du chien, mais on va prendre ça un petit peu en vol d'oiseau. Là. OK, on a une réaction forte ici en Amérique du Nord pour les chiens, pour les chats, mais on mange du lapin, on mange du pigeon.
Oui, hein?
C'est quoi la différence?
C'est ça. Ouais, ben c'est ça qu'il faut se poser comme question. En fait, c'est notre perception, puis je pense qu'idéalement... J'ai pas de réponse à cette chose-là, mais c'est un angle qu'il faut aborder pour essayer de comprendre un peu les gens qui mangent les chiens. Mais c'est sûr que le lapin, on en a dans notre assiette et on en a aussi comme animal de compagnie. Alors, c'est déchirant. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'opinion que je porte là-dessus non plus, mais il faut juste se faire un œil. Et puis, je voulais vous dire aussi, en fait, le sauvetage de ces chiens-là, ça vise pas à sauver les millions de chiens là, qui se mangent par année, mais c'est vraiment des chiens qui ont été sauvés à titre d'ambassadeurs. C'est seulement pour soulever l'opinion générale, internationale, et arriver à faire comprendre à ces gens-là que ça ne se fait pas.
Puis il y a eu de ces ambassadeurs qui ont été rapatriés au Canada.
Oui. Oui. Sur les 170 bêtes qui ont été rapatriées, ils en ont mis un peu dans tous les pays, justement pour sûrement en faire parler. Et il y en a 46 qui se sont trouvés chez nous au Canada, en Ontario. Et les animaux ont été examinés par des vétérinaires de Toronto. Il y a eu des tests de comportement, c'est sûr, qui ont été faits chez ces animaux-là pour savoir si... C'est sûr qu'ils ont des lacunes au niveau comportement. Ils n'ont pas été sensibilisés à l'humain ou à d'autres chiens, à d'autres animaux, à tout ce qui bouge, finalement. Donc, il y a des chiens qui vont être capables facilement de se réintégrer. Mais les gens qui vont les prendre, ils vont devoir vraiment travailler très fort sur la désensibilisation. Et ça va être un gros travail. Il y en a à l'SPCA, il y en a un peu dans tout le Québec. Il y en a à Victoriaville, il y en a à Montréal. Et ils vont être prêts pour adoption bientôt.
Pas mal intéressant, cette chronique aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous passer une commande la semaine prochaine?
Oui.
OK, parce qu'on va se parler la semaine prochaine pour la dernière avant Noël. Peut-être que c'est un bon moment de parler d'une idée que quelqu'un pourrait avoir d'acheter un chien ou un chat pour Noël puis donner ça sous l'arbre de Noël. Peut-être qu'on pourrait évaluer les conséquences ensemble avant de procéder à un tel achat. Peut-être qu'il faut y penser deux minutes.
Oui, voir si on est fait pour ça puis si on a le budget.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. OK, fait qu'on parle de ça la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Très bien, merci Claudia. Bye.
Merci, au revoir.
OK, salut. Claudia Forgette, docteur Claudia Forgette, médecin vétérinaire, directrice médicale chez Anima Plus, dont deux cliniques ici même en Outaouais.